Et c'est Eva que j'accueille maintenant. Bonsoir Eva.
Sabine, merci de m'accueillir dans votre émission.
Avec plaisir.
Ça tombe bien que vous ayez parlé de bipolarité parce que moi je souhaiterais vous parler des troubles de l'humeur. J'ai fait une dépression en 2018 suite à un burn-out. Donc elle a duré 18 mois. J'ai repris le travail et en fait j'ai fait une pneumopathie. Et en même temps, apparemment, c'est ce que m'a dit ma psy, j'ai fait un syndrome bipolaire.
C'était la première fois ?
Ouais.
Alors juste que je comprenne bien, quand vous avez fait ce burn-out et ensuite cette dépression, vous avez repris à l'identique le travail d'avant, tout pareil ?
Non.
Alors qu'est-ce que vous avez changé ?
J'étais dans un autre service avec d'autres collègues. Et donc, je repartais sur autre chose. Et donc, en fait, c'était un service, j'ai su rester dans la même entreprise, un service qui nous permettait de remettre le pied à l'étrier pour retrouver un poste dans l'entreprise.
D'accord. Comme une zone un peu tampon, quoi, entre deux.
Voilà, quelque chose de plus confortable, de plus... de moins stressant aussi, avec beaucoup de formation pour la recherche d'un nouveau poste, en fait. Et puis, donc ça se passait très bien. J'y suis restée 6 mois, je suis tombée malade. Donc, j'ai fait une pneumopathie au moment du Covid. Et je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché...
c'est tout récent, alors ça date d'il y a quelques mois.
Oui, tout à fait, oui. Donc, j'ai eu une phase... j'ai pu mettre des mots dessus parce que j'étais consciente que j'étais très euphorique, que tout était bien, que...
Tout était trop, quoi.
Ouais. Je me suis mise à faire des photos, je me suis mise à écrire. J'étais non-stop à faire des choses. Je dormais pas beaucoup. Et mon mari me trouvait étrange, ça c'est certain.
Est-ce que ça peut pas être un effet secondaire des médicaments que vous preniez à ce moment-là ?
Mais je sais pas. Franchement, je sais pas du tout.
Il y avait jamais eu d'alerte avant dans votre vie ?
Non.
Pas d'antécédents familiaux, pas
non.
De non ?
Non. Non, 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 j'ai jamais rien eu. Peut-être que je suis peut-être un peu hyperactive.
Alors attention, parce que là, vous me parlez du Covid et vous savez qu'on a entendu aussi que certaines formes du Covid sont neurologiques.
Oui, j'ai entendu des infos là-dessus. Mais
et
du coup, alors ma psychiatre me dit que je ne suis pas bipolaire, mais que j'ai des troubles de l'humeur. Et moi, j'ai peur que ce soit associé à la bipolarité, en fait. Enfin...
Comment est-ce qu'elle vous explique la différence ?
Elle ne me l'explique pas.
Ah bah oui, c'est pas très rassurant, ça.
Elle m'a dit que je faisais une dépression. Là, donc j'ai fait une phase haute, et puis là, je suis retombée, je fais une dépression.
Alors, attention quand même, là où je la rejoins de loin pour l'instant, c'est que c'est un peu à la mode ce mot bipolarité. C'est comme les enfants hyperactifs, on a tendance à mettre l'étiquette très rapidement. Et on peut aussi, effectivement, après un burn-out, après une dépression, avoir une phase comme ça de trouble de l'humeur, sans être forcément bipolaire.
D'accord. Parce que c'est quoi exactement bipolaire ? C'est ça que je ne sais pas.
La bipolarité, c'est un trouble du comportement. C'est ce qu'on appelait avant les maniaco-dépressifs, si vous voulez.
Ouais.
Et ce sont des gens qui, effectivement, passent d'un extrême à l'autre, mais c'est très très rapide. Et les extrêmes peuvent en tout cas souvent être très extrêmes. Dans la phase d'euphorie, il y a des gens qui sont capables de dépenser des milliers d'euros qu'ils n'ont pas. Ou de se mettre en danger parce qu'ils vont faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire en temps normal. Et inversement, dans la phase dépressive, ça peut mener jusqu'au suicide. Dans la phase basse.
D'accord. Si mais quand ils, quand ils sont traités, que c'est comme ça ou quand ils ne sont pas traités ?
Quand ils ne sont pas traités, normalement, la plupart du temps, heureusement, on arrive à une stabilisation avec les médicaments. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un traitement bien, bien pris, bien équilibré. Un suivi psy, ça c'est clair. Mais après, des troubles de l'humeur, ça ne veut pas du tout dire que vous êtes forcément bipolaire.
Hein. Bipolaire.
Non.
D'accord.
Parce que
c'est angoissant ça... pour moi de...
Et attention à l'autosuggestion aussi. Parce que
m'a dit que...
Oui.
Pardon. Elle m'a dit que j'avais fait un syndrome bipolaire.
Oui, bon, après ce sont des mots aussi, tout ça. Entre syndrome bipolaire, entre des troubles de l'humeur, entre une bipolarité. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est qu'un syndrome bipolaire par rapport à une bipolarité.
C'est la phase manie que j'ai eue, d'être en hyperactivité. Je me suis mise en danger, j'ai roulé très vite, ça m'est arrivé deux fois. C'est vrai qu'on se sent un peu dans la toute-puissance.
Invincible, oui.
Ouais. Mm-hmm. Qu'on se croit un peu irrésistible aussi. On a l'impression qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout dominer. Et moi, je me rendais pas compte. Enfin, je me rendais pas compte. Moi, je croyais que c'était en fait le fait d'avoir fait un burn-out avec une dépression derrière. Je pensais que c'était ma façon à moi de retrouver le goût de la vie. Et en fait, non, j'étais encore dans la maladie.
Oui, je vous dis, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être aussi, moi je reviens là-dessus, ça peut être aussi une réaction au traitement, à un médicament.
Aussi.
Donc avant de paniquer, de vous mettre l'étiquette indélébile collée sur le front bipolaire, il peut y avoir plein d'autres choses.
Parce que moi, je n'ai pas de changement d'humeur dans la journée ou du jour au lendemain, je n'ai pas du tout ça. Là, j'ai un stabilisateur d'humeur, donc j'ai un traitement.
Comme du lithium, quelque chose comme ça ?
Je ne sais pas si c'est du lithium. Je peux citer les noms des médicaments ou c'est interdit ?
Au nom, vous pouvez, mais je ne suis pas convaincue que tout le monde les connaisse, mais ce n'est pas grave.
Alors, elle me donne du lamotrigine le matin. Donc, c'est un régulateur d'humeur. Mm-hmm. J'ai du venfaxoline. C'est un antidépresseur. Et puis, j'ai un truc pour dormir le soir.
Est-ce que dans tout ça, vous n'avez pas envie de vous tourner un petit peu vers d'autres médecines parallèles en plus, acupuncture, sophrologie, aller faire aussi de la méditation, vous faire du bien en douceur autrement?
C'est ce qu'on me dit, oui.
Parce que là, vous êtes quand même bien bourré de médicaments.
Moi, je trouve aussi, et du coup, là, elle m'a changé mon antidépresseur. Donc elle m'a mis un antidépresseur un peu costaud parce que j'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Et du coup il m'empêche de dormir, donc il y a des effets secondaires. Depuis que j'en ai pris pendant deux jours, ça fait deux nuits que je dors pas.
Et c'est un cercle vicieux ça, parce que si vous dormez pas, vous allez être encore plus mal.
C'est ça le problème. Non ?
C'est pour ça que je vous invite moi, je ne m'occupe absolument pas de ce traitement médical. Je n'en ai pas ni les compétences ni le droit, évidemment. Mais par contre, je peux me permettre de vous conseiller en plus des tas de choses qui vous feraient du bien.
Oui, notamment de la sophrologie ou de l'acupuncture.
Alors, l'acupuncture, c'est pour le physique, déjà pour arriver à retrouver le sommeil, à lâcher des choses, à faire recirculer une bonne énergie en vous. La sophrologie et la méditation pour aussi vous apaiser, retrouver le sommeil. Laissez passer les peurs, les pensées négatives. Vous connectez à quelque chose de plus gai, de plus positif pour vous. Oui,
ouais, mais c'est vrai que la psychiatre me dit qu'il faut absolument que je prenne mes médicaments et que ça aura de l'effet. Elle m'a dit qu'il fallait compter au moins une année pour soigner ça. Donc, moi, je fais confiance à mon thérapeute, donc je prends les médicaments, mais j'avoue que il y a des médicaments qui font grossir, il y a des médicaments qui empêchent de dormir. Puis quand on lit la liste de tous les inconvénients de certains médicaments, franchement, ça donne pas envie de les prendre, quoi.
Est-ce que vous avez demandé un contre-avis ?
Non.
Peut-être ça vous ferait du bien.
Et à qui je peux le demander? À ma psy?
Un autre
Voir un autre médecin, vous voulez dire?
médecin en qui vous avez confiance. Et puis même, c'est toujours intéressant dans des cas comme ça d'avoir un autre avis, parce qu'aucun médecin n'a la science infuse. Ils sont chacun ce qu'ils sont en fonction de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu, et ils ont quelquefois des éclairages différents et très intéressants.
Le problème, c'est qu'elle est quand même bien, ma psychiatre, elle est très à l'écoute, elle comprend bien ma situation. Et pour elle, elle m'a dit qu'il fallait trouver le bon dosage avec la bonne molécule pour que je sois régulière dans mes humeurs.
D'accord. Mais une fois de plus, ça n'empêche pas de vous aider à côté avec d'autres choses.
Oui.
Et deux chemins parallèles qui ne sont pas du tout en opposition. Vous savez, je dis souvent que quand on a des médicaments suite à une grosse dépression comme ça, c'est comme quand on s'est cassé la jambe et qu'on a un plâtre. À un moment donné, c'est bien d'avoir le plâtre, mais on va aussi attaquer la rééducation. Et la rééducation, ça peut se faire aussi par tout ce que vous pouvez faire à côté pour vous faire du bien.
Parce que moi, j'avoue, les médicaments, c'est pas du tout mon truc. Mais là, elle m'a bien dit qu'il fallait surtout que je les prenne, que je sois sérieuse avec ça, parce que je lui avais dit... Pendant l'été, j'étais tellement mal avec les médicaments que j'avais, je dormais tout le temps, quoi. Je lui dis, moi, c'est pas possible que je prenne autant de médicaments. J'ai 3 enfants à m'occuper. Je peux pas être dans le gaz toute la journée, quoi.
Et alors, justement, à ce propos, est-ce que vous êtes entourée? Comment ça se passe à la maison? Comment votre mari réagit, par exemple?
C'est compliqué. Mon mari, il évite le sujet. La famille, nous on n'a pas de famille parce que on habite très loin de nos familles et puis on n'en parle pas. Moi j'en ai pas parlé, enfin j'en ai parlé avec ma mère seulement. J'ai des sœurs qui sont pas forcément dans la compréhension puisque y a de la surenchère. J'ai un neveu par exemple qui a un cancer. Enfin, il y a beaucoup de malades autour de moi, dans ma famille.
Quand vous dites la surenchère, est-ce que c'est quelque chose du genre, mais toi, c'est rien par rapport à un tel,
oui.
C'est ça? Oui,
ouais, c'est ça.
De quoi tu te plains, quoi, c'est ça?
Ouais, mais de quoi tu te plains? T'as une maison, t'as un mari, t'as ce qu'il te faut. Il faut juste que tu te prennes en main, que tu sortes et que tu vois du monde.
C'est voilà ça, bouge-toi, comme s'il y avait cas, quoi.
Ouais, sauf que moi, c'est psychique, quoi, c'est... C'est un mal-être, c'est de la violence, de la souffrance, je dirais plutôt, de la souffrance psychologique en fait, depuis ce que j'ai vécu. J'ai vécu du harcèlement au travail. Et du coup, ça m'a complètement anéanti en fait.
Il y a une partie de vous qui est restée cassée à ce moment-là.
Ouais, j'ai l'impression que c'est pas fini en fait. Il y a rien de résolu en fait.
Alors c'est pour ça que tout à l'heure je vous posais la question, vous êtes retournée dans la même entreprise. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose pour vous. Vous savez, j'explique souvent qu'une dépression et encore plus un burn-out vient nous dire quelque chose de ce qu'il faut changer dans notre vie qui ne va pas. Et là, même si vous avez changé de poste, et j'ai bien compris que c'était un espace un peu entre deux, vous êtes quand même revenue au même endroit. Un endroit qui vous a fait beaucoup souffrir visiblement. Est-ce que vous avez travaillé sur cette blessure-là, sur cette souffrance en thérapie? Est-ce que vous avez pu en parler, mettre des mots et évacuer tout ça?
Oui, ça fait 3 ans que je suis suivie. Bon, on n'a jamais trop le temps de tout aborder, mais on en a pas mal discuté. Je dis pas que j'ai fait le deuil. Et en fait, je dissocie l'entreprise des personnes qui m'ont fait du mal.
D'accord. Mais j'ai quand même l'impression, vous entendant, vous écoutant, qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas terminé.
Non, puisque c'est une affaire qui va être poursuivie au tribunal.
Oui.
Donc il y a encore aussi la phase... tribunal où on va exposer ce qui s'est passé, quoi, le harcèlement que j'ai subi pendant des années.
Et ça va faire remonter la boue, tout ça aussi.
Ouais.
Il le faut, mais ça va être compliqué.
Ouais, mais je pense que je suis détachée de ça. Ça ravivera certainement des douleurs, c'est certain. Mais je suis capable de m'en détacher.
Ça, c'est important. C'était quel type de harcèlement? Harcèlement sexuel ou pas du tout? C'était simplement des histoires de
Non,
jalousie ou de...
c'était des working girls qui étaient là pour faire du ménage. Et comme à l'époque de ce que j'ai vécu, il fallait supprimer tous les temps partiels parce qu'on dérangeait le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais on ne vient pas vous dire, ben, ce serait bien pour l'entreprise que tu t'organises pour travailler un petit peu plus parce que ça nous aiderait. C'est plutôt par la force. Voilà, on vous dit les choses, on ne vous les dit pas, on vous fait subir. Hein. Si vous n'avez pas compris, on vous fait subir du harcèlement, on vous maltraite, on vous diminue, on dit que vous faites mal votre travail, on cache le travail bien fait. C'est un cercle vicieux.
C'est allé jusqu'où avec vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait de... qui vous a vraiment le plus blessé?
Ce qui m'a le plus blessée, en fait, c'est que je suis partie en congé individuel de formation parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai pris la fuite. Je suis allée faire de la couture pendant un an, tout en étant stressée pour le retour, parce que je savais ce qui m'attendait. Et donc après une année de formation, je suis retournée sur mon lieu de travail. Et là, dès le premier jour, mon ancienne chef, c'était elle qui m'a accueillie. Et ça sentait déjà à mon retour. Et donc, elle épiait tout ce que je faisais. Elle était sur mon dos tout le temps. Et puis, comme je revenais d'un an d'absence, normalement, au retour, on a 3 semaines de formation. Et moi, ils ont estimé que j'avais besoin que de 2 jours de formation.
Dans quel domaine c'était cette entreprise?
Oh, si je vous dis, on va me
Ah d'accord,
reconnaître.
ok, non, non, ne vous mettez pas en danger. C'était juste pour essayer de comprendre un peu l'état d'esprit de...
Voilà.
Oui, donc d'emblée, on vous laisse
C'est dans le rail. Hein.
2 jours et
Voilà, c'est pas
débrouille-toi, quoi.
grave. 2 jours et on m'a mis directement sur le tas, enfin sur le poste.
Alors, j'ai entendu ce que
Et
vous m'avez dit, mais vous étiez vous dans les bureaux, hein?
oui.
D'accord.
Et je ne sais plus. Et donc je devais ensuite bah, j'ai montré que moi j'avais envie d'avoir une formation un peu plus poussée pour pouvoir traiter toutes les compétences qu'on me demandait. Et donc ça a été acté par écrit. Et le jour de la formation, la personne qui devait me former ne voulait pas venir me former.
Mais de quel droit?
Ah bah parce que j'avais déjà été formée et qu'elle n'avait pas le temps et que bah je lui dis oui, sauf que là c'est marqué noir. Tu dois m'aider aujourd'hui, demain et après-demain. Et donc elle a estimé qu'elle n'avait pas à le faire. Et donc moi j'allais très mal. C'était une période où j'allais très mal, puisqu'on me faisait des entretiens impromptus. Donc, tu viens dans mon bureau pour me dire, il y a ça, ça, ça qui va pas. Enfin, c'était tout le temps que des reproches, alors que ça faisait 15 ans que j'étais sur mon poste. Et enfin, je faisais du mieux que je pouvais mon travail. Après, j'avais un chef pour me noter. Mais selon elle, c'était, il y avait tout le temps à redire, mais il faut savoir aussi que pour me déstabiliser, donc on me mettait par exemple 30 à 40 mails à traiter en 2 heures avec des compétences qui n'étaient pas les miennes. Enfin, c'était
Des pièges, quoi.
tout le temps des choses comme ça où Enfin, j'étais mangée par le stress tous les jours, quoi. Tous les jours, on travaille, j'étais bouffée par ça. Et donc, quand elle n'a pas voulu me faire la formation, donc je suis allée la voir en lui disant que ce serait bien qu'elle m'aide parce que moi j'en ai besoin pour avancer dans mon travail, parce que sinon c'était aller dire que j'étais pas compétente.
Ah oui, bien sûr. Vous voyez, c'est la porte ouverte au problème derrière.
C'est, voilà. Mmh. Et donc il y a la responsable de formation à un moment donné qui est passée, donc moi j'étais en larmes. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est « Vous venez dans mon bureau. » Moi, j'étais en larmes. Donc, je suis allée dans son bureau. Et il y avait 3 personnes qui m'attendaient dans le bureau. On m'a dit « Asseyez-vous, n'ayez pas peur. » C'était un peu compliqué. Donc, ils étaient tous debout. Et puis, ils m'en ont mis tous plein la figure. Donc, en sortant, je suis allée à mon poste. J'ai fait une crise d'angoisse. J'avais de l'Exomil et j'ai avalé la boîte d'Exomil sur mon lieu de travail.
Oh mon Dieu. Il n'y avait pas un médecin du travail ou un responsable syndical qui pouvait vous aider, vous tendre la main à ce moment-là?
Je suis passée partout, par le médecin du travail, par les délégués syndicaux.
Ouais, c'est ce que j'ai
personne fait. Personne n'a voulu faire son travail. Personne, puisque la médecin du travail, après les réunions, elle a été dire que c'était moi qui avais un problème. Alors que je lui ai envoyé des mails, je lui ai dit « moi, j'en peux plus, il faut que vous m'aidiez ». Je suis allée la voir à son cabinet, oui, c'était... Elle comprenait tout à fait ce que je lui disais. Par contre, dans les actes, à aucun moment, elle a appelé la responsable de mon service pour dire « attention, vous avez un problème ».
Qu'est-ce que vous croyez que c'est des histoires de quoi, de copinage ou des choses comme ça? Parce que c'est étonnant.
Ah oui, en fait, on a avec la nouvelle loi Macron, donc ça a changé beaucoup la donne, surtout dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Et en fait, ils voulaient faire du ménage, donc ils nous ont mis des jeunes cadres. Je dis pas inexpérimenté, mais qui n'ont rien à voir avec la mentalité de l'entreprise. Mmh. Et puis, la chef de service a pris sous son aile une autre responsable. Et en fait, c'était assez malsain parce que c'est un service très féminin où on était 120 femmes.
Oui.
Donc, pour vous dire l'ambiance qu'il y avait... Et la grande responsable du service ne voulait rien entendre. En fait, tout ce que lui rapportait son bras droit, c'était la vérité. Donc, elle pouvait détester des gens qu'elle ne connaissait même pas.
Ouais.
Seulement sur les dires de son adjointe. Et moi, je suis allée la voir avec un délégué syndical pour lui expliquer ce qui se passait. Moi, en fait, ce qu'on me reprochait, c'était mon temps partiel. Hein. Parce que j'ai 3 enfants, donc j'ai choisi de travailler à temps
partiel. Ça crée des jalousies, vous pensez ?
Eh bien, ils ne voulaient plus de temps partiel. Hein. Ils faisaient la chasse à tous les temps partiels. Donc, il fallait que je travaille soit à 80%, soit à 100%. Mais ça, on ne vous le dit pas ouvertement. On vous le dit en vous faisant la guerre.
Il vaut mieux essayer de vous faire craquer, c'est plus rentable.
Hein. Bah oui, c'est ça.
Ouais.
Et du coup, après ça, j'ai fait une grosse dépression qui a duré 1 an et demi.
Mais il y a de quoi, hein?
Bon, on n'a pas voulu que je reprenne le travail. Et puis, à côté de ça, vous avez la médecine du travail qui vous menace de perdre votre emploi. Donc, je n'étais pas complètement guérie et j'ai voulu retourner travailler. Donc, je suis retournée pour me trouver un poste, en fait. Et puis je m'en sors pas. Et là, je retombe dans une nouvelle dépression, alors que j'ai jamais fait de dépression auparavant. J'étais quelqu'un de plutôt costaud, de dynamique, enfin, j'avais beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je me demande comment je faisais pour concilier mon travail et mes trois enfants. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est de rester dans cette dépression. Ce qui me fait peur, c'est d'y rester.
Ben, vous savez, une fois de plus, moi, je pense qu'une dépression vient nous dire quelque chose. Et pour ne pas y rester, il faut changer des choses dans votre vie. Il faut s'éloigner de ces gens-là.
J'en suis éloignée, puisque je travaille plus avec eux.
Vous en êtes où sur le plan juridique, vous m'avez dit, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle?
Oh, voilà. Bah, j'ai pris une avocate
Ouais.
qui s'occupe de la situation et il y en a pour encore pour qu'on attende encore 2 ans avant
Deux
que ça
ans.
passe au tribunal. Et encore pour avoir quoi je me demande. Je l'ai fait vraiment de façon symbolique et
Ah,
surtout
c'est
pour être.
important, c'est important que vous l'ayez fait, quel que soit ce que vous gagnez à la fin, même si c'est pas grand-chose, c'est important de le faire. Mais alors, du coup,
Bah, c'est surtout pour être reconnue victime
bien sûr,
de ce qui s'est passé. Quoi, après, elle reste.
professionnellement, vous avez envie de quoi maintenant?
Bah là, franchement, j'ai aucun projet là. Là, je suis dans un tunnel et j'aimerais bien sortir de ce tunnel. Voilà, c'est pour ça que quand la psychiatre me dit que je fais des troubles de l'humeur, je me dis si en plus j'ai des problèmes psychologiques, ce serait
Non,
leur
non, non, non,
donner
non.
raison.
Même si vous êtes dans ce tunnel-là, regardez devant, il y a de la lumière au bout.
J'essaye de la voir, mais
Elle va arriver, cette lumière. Elle va arriver et
c'est dur.
vous verrez un jour que vous vous retournerez en vous disant que ces changements-là ont été positifs pour vous. Est-ce que vous pourriez, dans l'intervalle, là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous tente, tenir un blog ou une page pour raconter un petit peu votre quotidien? Est-ce que ça ne vous ferait pas du bien, ça?
Ouais, pourquoi pas, ça serait une idée à creuser, écrire, ouais. Oui, ça ne me déplairait pas d'écrire, c'est juste l'envie qui n'est pas toujours là.
Oui, mais là, pour
C'est
le
ça.
coup, il faut, c'est comme un moteur diesel, il faut forcer un petit peu sur l'envie. Il faut se forcer un petit peu. Et au départ, ça peut être un peu difficile parce que quand on est dans l'état dans lequel vous êtes, on n'a pas envie, on n'a plus envie d'avoir envie.
Ah oui, ça,
Mais
l'envie, elle n'est plus là.
c'est comme d'aller se promener en forêt, c'est comme de faire un petit peu de gym le matin, c'est comme de faire de la
Ouais.
méditation. Il faut se forcer un petit peu. Et même si au départ, on se dit, oui, mais j'en ai pas de bénéfice, c'est jamais tout de suite. C'est au bout de 3 semaines, un mois. Moi, je dis toujours qu'il faut 28 à 30 jours pour que les choses se mettent en place. Alors, bien sûr, quand on
Ah
va
oui,
mal,
c'est vrai.
on a envie que ça aille tout de suite mieux. Alors, on fait deux, trois trucs, puis on se dit non, mais ça ne marche pas, et on laisse tomber. Ça, c'est une erreur. Donc, peut-être vous forcez un petit peu le matin à écrire.
Il faudrait.
Et puis, je ne
Il
sais pas,
faudrait
après,
pour que je m'en
parce que
rappelle.
vous êtes jeune, vous connaissez les outils informatiques, vous pouvez créer un blog, créer une page Facebook, créer un endroit où vous pourriez partager aussi avec des gens votre histoire.
Oui, on suit pas là. Tout ce qui est réseaux sociaux et tout, c'est pas trop mon truc
Non,
en
je pas,
fait.
même pas forcément de réseau, mais pour qu'on vous lise, qu'on puisse vous lire, voyez?
Ouais. Comme un journal en fait,
Exactement. Et je suis
pour
sûre
décrire
que
la maladie, décrire.
le harcèlement au boulot, tout ce que vous traversez, parce que c'est...
Enfin, ça remonte à 2018. Enfin, c'est pas vieux non plus,
En tout
Mais
cas...
c'est vrai que ça, j'avais un peu essayé de le mettre de côté. Parce que ça a été trop, 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 trop loin et c'est trop, trop douloureux. Et je me dis, c'est en partie, c'est à cause d'eux que je me retrouve dans cette situation, médicale.
Je comprends, mais le mettre de côté, pour moi, c'est pas une solution parce que ça existe, c'est là, et on a besoin à un moment donné de tourner le dos à ça au départ. Mais je pense que le traverser et le dépasser, ça serait bien aussi. Et une bonne manière de le traverser, c'est d'en parler ou d'écrire. Et vous parlez très bien, et si vous écrivez aussi bien que vous parlez, je pense que ce sera agréable aussi à lire, et que petit à petit, les mots vont sortir tout seuls.
Ah oh oui, ça je peux faire.
Oui.
Ils peuvent sortir tout seuls.
Moi, je suis persuadée que ça vous ferait du bien. C'est déjà
Bah, merci.
un petit pas vers quelque chose de positif, une reconstruction.
C'est ça, c'est je n'arrive pas à trouver le moteur qui pourrait m'aider à sortir de cette dépression. J'aimerais bien en sortir, mais je ne fais rien pour en sortir. J'attends. Et le temps est long. Et c'est compliqué. Je me suis isolée. Donc, j'essaie d'avoir le moins de contact possible avec l'extérieur.
Bien sûr, parce que les gens comprennent pas, bien sûr.
Oui, et puis j'ai peur que ce soit une maladie qui se voit aussi. Ah. C'est ça.
Et si ça se voit, où est le problème?
On va me prendre pour quelqu'un avec des problèmes psy.
Eva, si vous commenciez par être douce avec vous-même.
Non, c'est parce que j'habite à la campagne, c'est pour ça.
Vous savez, il y a trois choses quand on fait une dépression, et je me rends compte que malheureusement le temps passe vite, là il nous reste 3 minutes. La première chose, c'est d'accepter que c'est une maladie. Ça, vous l'avez compris, vous vous faites soigner, c'est très bien. La deuxième, c'est de comprendre qu'une dépression nous stoppe, nous bloque, que vous dites, j'arrive même pas à avoir envie. Et c'est là où il faut se forcer un peu à se mettre en mouvement, même si c'est un petit peu. Aller marcher un petit peu, aller écrire un petit peu, aller faire un peu de méditation. Il y a plein de sites sur Internet qui sont très très bien pour se faire accompagner en méditation guidée, par exemple. Et la troisième chose, c'est de ne vous entourer que de gens positifs. De regarder des films qui vous font sourire, de lire des livres positifs, de vous entourer de gens qui vous aiment vraiment. Tout ça, ça participe. Alors bien sûr, c'est pas une guérison spontanée, mais ça participe à vous amener vers la lumière au bout du tunnel, justement.
J'ai un gros problème, c'est un problème de concentration. J'ai du mal à me concentrer.
Ça, c'est normal aussi quand on traverse ce que vous traversez. C'est complètement logique. C'est pour ça que je vous dis un petit pas à chaque fois. Et que je vous dis, soyez douce avec vous-même. Vous ne pouvez pas exiger de vous-même que tout change comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais des petites choses.
Non.
Une petite chose et une autre, l'une après l'autre.
Je voudrais retrouver ma vie d'avant. Celle où j'étais dynamique, où je faisais plein de choses, où j'étais pas insouciante, mais voilà, j'arrivais à aller travailler, j'arrivais à m'occuper de mes enfants, j'arrivais à faire des choses avec mes enfants. Là, j'arrive à rien.
Alors, vous ne retrouvez pas votre vie d'avant, vous retrouverez une vie où vous serez plus forte parce que vous aurez surmonté une expérience et une épreuve. Vraiment.
C'est vrai. J'espère m'en sortir. Je dis, mon angoisse à moi, c'est de rester comme ça pendant des années. Je sais qu'il y a des gens qui restent en dépression durant des années, mais moi, je n'ai pas envie de rester des années dans le noir, sombrer. Je n'ai pas du tout envie de ça, quoi. Déjà, je trouve que je perds assez de temps comme ça. Je perds des années. J'ai perdu quelques années de vie avec tout ça. Et je n'ai pas envie d'en perdre plus, quoi.
Je pense que vous allez trouver en vous tout ça pour avancer vers cette lumière au bout du tunnel. Restez bien focalisé là-dessus. Et une fois de plus, obligez-vous un petit peu à vous mettre en mouvement. Je dis bien un petit peu. Dans des choses qui vont vous faire plaisir. Pas forcément tout de suite, mais petit à petit, ça va réinstaller du plaisir aussi, c'est important.
Oui, c'est ça aussi mon problème.
Bien
sûr. C'est que j'ai aucun plaisir. Vous pourriez me demander ce qui me ferait le plus plaisir. Je ne saurais pas quoi vous répondre.
C'est normal. Tout ça, c'est normal quand on passe par une dépression.
La notion de plaisir n'existe pas. L'envie n'existe pas. C'est dur. C'est dur parce que le temps est long.
Oui, je sais bien.
Même si ça passe, c'est long et c'est des médicaments, c'est des angoisses.
Je sais bien tout ça. Par contre, Eva, le temps est long, mais pas dans notre émission qui se termine dans 30 secondes. Si vous souhaitez qu'on se reparle dans quelques jours, digérez un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Et n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on en reparle, rappelez-moi, je serais ravie de vous reprendre à l'antenne. D'accord?
Merci beaucoup, Sabine.
Et moi,
merci,
je vous envoie toute la lumière qui est en moi.
Merci.
Et je vous embrasse.